Soyez bienvenus, nouveau numéro d'International sur les antennes de Radio France Internationale, de TV5 Monde, en liaison, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, notre invité est un président de la République, chef de l'État de la République du Niger, Mamadou Issoufou. Merci d'être avec nous. Nous vous avons lancé cette invitation à l'occasion d'un sommet de crise qui vient de se dérouler à Paris, je le rappelle pour nos téléspectateurs et auditeurs, sommet de crise autour d'un événement tragique, l'enlèvement de ces dizaines, pratiquement centaines de lycéennes au Nigeria par une secte fondamentaliste islamiste, Boko Haram. Vous étiez avec les présidents du Niger, Cameroun, du Bénin, du Tchad autour de François Hollande pour tenter de trouver une solution. Nous allons faire un rappel de cette situation avec quelques images et donc commentaires. Je voudrais tout d'abord vous demander, nous voudrions vous demander si vous avez des nouvelles de ces lycéennes, si vous savez où elles sont, si vous, dans le cénacle de ce sommet, vous avez des informations que nous n'avons pas. Vous savez où elles sont, vous savez dans quelle situation elles se trouvent ?
Malheureusement, on ne sait pas de manière précise où sont les jeunes filles enlevées par Boko Haram au mois d'avril, il y a de cela à peu près un mois.
Le 15 avril.
Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elles sont toujours au Nigeria. Mais où au Nigeria, c'est cela qu'on ne sait pas. Et je pense que les discussions qu'on a eues hier à l'occasion du sommet auquel vous venez de faire allusion nous ont permis en tout cas de mettre en place un certain nombre de mesures qui puissent nous permettre à terme de les retrouver et de les libérer.
Alors nous allons vous poser beaucoup de questions autour de leur situation, des moyens d'action, négociations, actions militaires, quelle opération. Tout d'abord, rappel des faits autour de cette situation, rappel de ce qu'est Boko Haram, et puis les commentaires que vous aviez il y a encore très peu de temps.
C'est le visage de Boko Haram. À la tête de cette secte terroriste, Aboubakar Shekau prône l'application stricte de la charia au Nigeria. Au nom du rejet de l'éducation occidentale, plus de 3600 tués depuis 2009, en majorité des musulmans, femmes et enfants compris. Mais c'est l'enlèvement de près de 300 lycéennes nigérianes qui soulève une indignation planétaire. Boko Haram menace de les vendre ou les marier de force et exige la libération de prisonniers. Des personnalités du monde, dont Michelle Obama, se mobilisent. Les familles nigérianes peuvent désormais compter sur les experts étrangers venus à l'aide du Nigeria et de son président.
Ils ne peuvent emmener ces filles nulle part. Ils n'ont nulle part où se cacher. Nous devons travailler avec la communauté internationale qui est résolue à nous aider pour ramener les filles chez elles.
Le président nigérian veut prolonger l'état d'urgence décrété depuis mai 2013 au nord-est du pays. Boko Haram frappe aussi plus au sud, jusque dans la capitale Abuja, mais aussi dans les pays voisins. Les frontières ne les arrêtent pas. Au contraire, par elles transitent des armes. Boko Haram pénètre au sud du Niger ou à l'ouest du Tchad. Au nord du Cameroun, ils prennent des otages occidentaux. Leurs actions provoquent des déplacements de population et menacent l'ensemble de la sous-région, selon les experts.
Les militants de Boko Haram s'enfuient, franchissent la frontière et essayent de constituer des bases arrières au Cameroun.
Boko Haram n'est qu'un élément de la nébuleuse djihadiste en Afrique. Al-Qaïda au Maghreb islamique et les Chebabs somaliens forment deux pôles, avec au centre les signataires du sang. Des mouvements intégrés au djihadisme international. Le Sahel, zone tampon entre plusieurs États, sert de base arrière aux djihadistes d'Acmi. Ici prospèrent tous les trafics, dont celui des otages. Après la guerre en Libye, les armes prolifèrent. Au Nord-Mali, les salafistes supplantent la rébellion Touareg de janvier 2012. La France intervient militairement avec le soutien des États voisins, dont le président du Niger.
Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposé par des terroristes et des trafiquants en tout genre. Une guerre injuste. Cette guerre, nous la gagnerons.
La guerre n'est pas terminée. Les fronts du djihad continuent de poser une menace pour la sécurité régionale et globale.
Mamadou Issoufou, on vient de vous entendre. Cette guerre, disiez-vous, voici quelques jours, nous allons la gagner. Au lendemain de ce sommet à Paris, avec vos homologues donc des pays voisins, est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que la voie passe par une action de guerre ou par la négociation ?
Mais écoutez, les terroristes ne sont pas dans une perspective de négociation. Tous leurs actes, tous leurs comportements le prouve. Donc il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Je pense que tout le monde l'a compris. C'est pour cela que nous avons fait la guerre au terrorisme au Mali. C'est pour cela que la guerre au terrorisme est faite en Afghanistan et partout ailleurs dans le monde, en Somalie. On est en guerre contre le terrorisme. La guerre est totale contre le terrorisme. Il n'y a pas de place pour la négociation avec avec les terroristes. Et en ce qui concerne Boko Haram, ce que nous avons décidé hier, c'est de mener une guerre sans merci contre ce groupe extrémiste qui commet des actes ignobles, des actes qui déshonorent l'islam, qui donnent une mauvaise image de notre religion, parce que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le juste milieu. Et tous les musulmans, parce que vous savez que le Niger est un pays musulman pratiquement à 100%, la plupart des musulmans nigériens rejettent ce que fait Boko Haram. Et au Nigeria également, c'est la même chose. Les musulmans du nord du Nigeria rejettent les prétentions de cette secte à imposer sa volonté à l'ensemble du pays.
Sophie Malibo, RFI.
Est-ce qu'il n'y avait pas un risque à tenir une opération aussi médiatique que ce sommet à Paris, très visible, à donner de la visibilité, à donner une notoriété aux leaders de Boko Haram qu'il n'avait pas jusqu'à présent ?
Non, je ne le pense pas. Je pense que ce sommet de Paris est venu au bon moment. Vous savez que Boko Haram, qui a été créé en 2002, a eu, je dirais, une période d'incubation militaire qui a commencé à partir de 2009. Boko Haram a commis beaucoup d'actes, mais le dernier acte qui a scandalisé le monde entier, qui a scandalisé la communauté internationale, c'est cet enlèvement, encore une fois, des jeunes filles innocentes. Après cet enlèvement, il était tout à fait normal qu'on se retrouve ici, à Paris, afin de d'harmoniser, de définir une stratégie.
Mais
pour
il y a deux ans au Nigeria, il y avait déjà à peu près les mêmes leaders réunis autour de la même question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux dernières années ?
Dans les deux dernières années, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, il y a eu un développement. Il y a eu un développement des activités militaires de Boko Haram et les attaques contre l'armée nigériane, les attaques contre les églises, les attaques contre même le siège des Nations Unies, rappelez-vous. Une radicalisation, effectivement, de Boko Haram. Et il est temps, maintenant, que tout le monde se mobilise pour arrêter cette avancée de Boko Haram.
Christophe,
dans la région.
Vous parlez de guerre, mais ce sommet, les résultats du sommet ne ressemblent pas aux résultats d'un conseil de guerre non plus. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une démarche auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, inscrire Boko Haram sur la liste des organisations terroristes, ça ne fait pas gagner une guerre, ça. Est-ce que l'on peut raisonnablement penser que les États de la région vont coopérer pour lutter contre la secte ?
Vous savez, le sommet quand même a abouti à des conclusions très importantes. Ces conclusions ont porté sur la nécessité de mettre en place une mutualisation des capacités de renseignement des pays du bassin du lac Tchad.
Vous y croyez ?
J'y crois très fermement. Une mutualisation aussi des moyens opérationnels de différents pays. Du reste, vous savez, le sommet n'a peut-être pas très bien fonctionné, et c'est cela qu'on paye avec le développement de ACMI dans la région. On a payé la paralysie du CEMOC, mais je pense que ce qui va se passer autour du lac Tchad ne sera pas à l'image de ce qui s'est passé avec le CEMOC. Nous avons au niveau de la CBLT, de la commission du bassin du lac Tchad, déjà depuis 2012, vous voyez, décidé de mettre en place des forces multinationales composées des forces du Nigeria, des forces du Niger, du Tchad et du Cameroun. Chaque pays a promis de mettre en place un bataillon et c'est en cours de mise en place. Donc, il y a des dispositions qui sont prises et le sommet, me semble-t-il, a confirmé ces décisions-là que les États se sont engagés à mettre en œuvre.
Pour revenir sur le format de la réunion, il n'y avait pas de présence de l'Union africaine, il n'y avait pas de présence de représentation de la CDAO. Comment expliquer ? Est-ce que ça ne risque pas de gripper ensuite le processus ?
Non, je ne pense pas que ça puisse risquer de gripper le processus.
Il n'y a pas besoin de l'Union africaine.
La CDAO la CEDEAO, l'Union africaine sont d'accord avec nous. Nous allons ensemble traiter cette question de Boko Haram dans la région, d'autant plus que c'est une question qui concerne pratiquement tous les pays et pratiquement toute l'Afrique, puisque Boko Haram a des connexions avec les autres organisations terroristes.
Notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebab de Somalie. Et d'ailleurs, nous avons eu des preuves par rapport à la connexion entre Boko Haram et ACMI, parce que les services de sécurité du Niger ont eu à saisir des correspondances adressées par Drukdel, Aboubakar Sheko, le leader de Boko Haram, et dans lesquels Drukdel donnait des orientations aux responsables de Boko Haram.
Quel genre de relation entre ACMI et Boko Haram? Ce sont des financements, c'est de la formation de combattants.
D'après ce qu'on sait,
les deux idéologies ne sont pas les mêmes.
C'est la même idéologie au fond. C'est les mêmes idéologies, c'est le rejet des valeurs occidentales, c'est l'installation de la charia, c'est la création des émirats islamiques dans les pays africains. Et donc, ACMI a très fortement aidé Boko Haram, surtout dans la formation. Vous savez, pendant la période de l'occupation du Nord Mali, il y a eu beaucoup de militants de Boko Haram qui étaient partis se faire former au Mali.
Mais on disait que l'opération Serval avait servi à couper le lien justement entre Boko Haram et ACMI.
Mais je vous parle du moment, du temps où le Nord Mali était occupé par ACMI. Mais maintenant, l'opération Serval effectivement a très fortement affaibli ACMI. Et actuellement, on ne pense pas qu'il y ait des relations entre Boko Haram et le débris des terroristes de l'ACMI qui restent encore au Mali.
On voit dans le petit rappel qui vient d'être présenté qu'au fond, le terrorisme, naturellement, se joue des frontières. L'une des difficultés de la réponse que les États tels que les vôtres apportent lors de sommets de Paris, c'est que, au contraire, chacun des États, au fond, clive un peu ses frontières. Il n'y a pas de dialogue, on peut le dire ici beaucoup, entre le Nigeria et le Cameroun. Les forces de l'ordre ne peuvent faire de suite. Est-ce qu'il faut, à chaque fois que vous veniez à Paris, pour vous parler des chefs d'État de cette région?
Non, c'est parler entre nous avant de venir à Paris.
Oui, mais se parler, mais agir.
C'est pas incompatible. Se réunir à Paris et puis se réunir en Afrique entre nous, c'est pas incompatible.
Qu'est-ce que ça apporte de plus?
Je pense que déjà, entre nous, je le rappelle, on a fait des réunions au niveau de la commission du bassin du lac Tchad. Et à ce niveau-là, on a eu à traiter des questions sécuritaires. On avait décidé de mettre en place, une force multinationale composée des bataillons des différents pays. On avait déjà décidé également à cette occasion de renforcer notre coopération au plan sécuritaire. Mais maintenant qu'on se retrouve à Paris, moi je pense que cela est important dans la mesure où nous avons besoin aussi de la France.
Vous avez besoin des États-Unis. De militaires, vous avez besoin de renseignements. Qu'attendez-vous de Paris aujourd'hui?
Nous avons besoin des États-Unis, nous avons besoin des Américains ou de la Grande-Bretagne, surtout dans le domaine du renseignement.
On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il y ait des soldats, des militaires français, anglais ou américains sur le sol, nigérians ou camerounais, pour lutter contre Boko Haram. C'est envisageable ou pas?
Et y en a-t-il déjà? Qu'il y en a?
Je pense qu'à ce stade, c'est pas nécessaire. Du reste, le président français l'a clairement dit qu'il n'a aucune intention d'envoyer des soldats français au Nigeria. Je pense que le Nigeria a des forces militaires capables de faire face à la situation. Ce qui manque, par contre, c'est le renseignement qui puisse permettre de rendre efficaces les actions des forces militaires du Nigeria.
L'armée nigériane est aussi sous le feu des critiques, notamment de la part des États-Unis, la veille du sommet, des critiques très fortes sur leur manière d'opérer, la brutalité de leurs interventions, quelquefois, qui rasent tout un village avec les populations civiles, etc. Est-ce qu'en fournissant les renseignements, mais sans assurer le suivi ensuite d'une éventuelle intervention, on ne prend pas des risques aussi?
Ça fait partie des questions qu'on a abordées d'ailleurs hier à l'occasion du sommet. Nous avons dit qu'il faut un emploi mesuré et de la force. Il ne faut pas combattre Boko Haram de telle sorte que on puisse jeter d'ailleurs les populations dans les bras de Boko Haram. Il faut faire un combat avec beaucoup de discernement. Je pense que tout le monde l'a compris et on tiendra compte.
Et Boko Haram, par exemple, il faut les détruire, comme disait François Hollande à propos du Mali, les détruire ou les juger. On sait que la tête du chef de Boko Haram est mise à prix, et 7 millions de dollars par les Américains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les détruire physiquement? Les éradiquer?
Il faut les détruire tant qu'ils ont les armes à la main. Maintenant, s'ils déposent les armes, on les enverra en prison, on va les juger conformément aux lois. Mais tant qu'ils ont les armes à la main, l'objectif doit être leur destruction. C'est pour cela qu'on est déterminé à mener une guerre totale contre ce groupe terroriste.
Mais est-ce que le Niger en particulier a les moyens de mener cette guerre totale? Vous avez des frontières qui sont assez poreuses, qui posent pas mal de problèmes avec le Mali.
On s'estime un peu le Niger, mais voyez ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte régional où on est entouré par des pays qui sont déstabilisés par les terroristes.
Il y a la Libye,
au niveau de la Libye, au niveau du Mali, au niveau du Nigeria. Mais le Niger continue à rester un îlot de paix. Et de sécurité.
Parce que
nous avons pris des dispositions très tôt pour sécuriser notre pays, pour sécuriser nos frontières. Certes, c'est pas suffisant. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous avons besoin du soutien extérieur, en particulier dans le domaine du renseignement. Mais aujourd'hui, le Niger est un pays totalement sécurisé sur l'ensemble du territoire. Il y a des incursions de Boko Haram, mais chaque fois qu'il y a incursion de Boko Haram à Difa, nous arrivons à les arrêter. Même récemment, on a arrêté des militants de Boko Haram dans la région. Il y a eu un affrontement entre les forces de défense et de sécurité du Niger et des groupe de Boko Haram, mais nous prenons les dispositions, en tout cas au Niger, pour que cette menace-là n'expose pas nos populations et le pays.
Sophie Malibaud, RFI.
Le trafic d'armes passe notamment par le territoire nigérien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour endiguer ce flux d'armes à destination de Boko Haram?
C'est vrai, nous avons un pays très vaste. Il y a beaucoup de points de passage entre la Libye et le reste du Sahel, entre la Libye et le Nigeria. Et notre objectif, justement, c'est de boucler ces points de passage, c'est de verrouiller ces points de passage. Et vous voyez, le Niger a une position de ce point de vue stratégique importante. Si nous arrivons à verrouiller les points de passage au Niger, on va sécuriser non seulement le Niger, mais on sécurise l'ensemble de la région. C'est là l'occasion de dire qu'il faut attaquer le mal à sa racine. Mmh. Et la racine du mal, c'est la Libye. Il faut stabiliser la Libye. J'ai eu coutume de dire qu'une des erreurs qui a été commise, c'est de n'avoir pas fait le service après-vente. Après la chute de Kadhafi,
il
aurait fallu que les mêmes forces qui ont aidé à la chute de Kadhafi aident à stabiliser la situation en Libye. Aujourd'hui, la Libye, que ce soit au sud ou à l'est, vers Benghazi, la Libye n'est pas stable. Même hier, il y a eu des affrontements, par exemple à Benghazi, vous le savez. Et la Libye est devenue un sanctuaire. Pour les terroristes. Tous les terroristes qui ont été chassés du Mali se sont réfugiés dans le sud libyen. Et la Libye, c'était un énorme magasin d'armes. Kadhafi a accumulé beaucoup d'armes dans le pays. Et après sa chute, toutes ces armes-là
ont irrigué toute la région.
Sont en train de disséminer dans la région. Et en particulier, Boko Haram s'approvisionne en armes à partir de la Libye. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité de stabiliser.
Dernière question avant la pause de Sophie Malibaud.
Non, mais je remets ma question si vous voulez. Tant que la situation n'est pas réglée en Libye, vous, concrètement au Niger, pour le trafic d'armes, comment vous faites pour endiguer? Est-ce que vous avez avancé sur ce chapitre pendant le sommet?
On a très fortement avancé parce que le trafic d'armes à travers le Niger a très fortement diminué. Et vous voyez d'ailleurs les mesures que nous avons eu à prendre. Nous ont permis, nous, de minimiser les effets négatifs de la crise libyenne par rapport, par exemple, au Mali. Parce qu'on a vu très tôt venir le danger et on a pris très tôt les mesures appropriées qui puissent permettre de sécuriser le pays.
Monsieur le Président de la République du Niger, beaucoup de questions encore à vous poser. On vous retrouve dans quelques instants après ce point de l'actualité internationale sur RFI et sur TV5 Monde. À tout de suite.